Le pamphlet de Gontran, c'est quoi? C'est un événement qui m'a marqué, sauté aux yeux, fait mal en dedans, fait rire aux larmes, a suscité une émotion et dont je voudrais partager mon envie d'y mettre des mots. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. J'arrive où je suis étranger. Rien n'est précaire comme vivre. Rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre comme le givre et pour le vent, être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière, d'où viens-tu? Mais où vas-tu donc? Demain qu'importe, et qu'importe hier. Le cœur change avec le chardon, tout est sans rime, ni pardon. Passe ton doigt là sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basses les lampes, la nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux, les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant, qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu. De son visage et ses pieds nus, peu à peu tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant, pour ne sentir ta dissemblance et sur toi-même, d'antan, tomber la poussière du temps. C'est long vieillir au bout du compte, le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît. Un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose, c'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous? Lentement plier nos genoux, ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marais? Combien faut-il d'années secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi? Pourquoi c'est si magré? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre comme le givre, et pour le vent, être léger. J'arrive où je suis étranger. Louis Aragon. Il faut discerner, pour être clair, rester pratique, tout au moins se situer dans un certain clair-obscur, deux sortes de phénomènes migratoires, bien qu'il en existe beaucoup plus. Premièrement, le réfugié, qui lui quitte son pays parce qu'il est persécuté pour sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou encore ses opinions politiques. Et petit 2, le migrant économique qui lui quitte son pays pour trouver du travail ailleurs, autre part, c'est-à-dire où il y en a. Celui-là n'est pas très éloigné du premier, disons que les deux sont parfois difficiles à séparer. Ces derniers temps, nous sommes ici, en France, touchés, pour certains d'entre nous, par ce que nous voyons ou entendons à travers le prisme de nos écrans, de nos ondes radiophoniques, touchés par les malheurs provoqués par les crises migratoires du monde. Cela va même parfois par le contact direct, quand on habite Calais, par exemple, ou encore, quand au petit matin, en passant dans nos bagnoles, on voit une colonne de personnes, traversant un champ pour s'en aller rejoindre je ne sais quelle ville, promise à un meilleur avenir. Dans le fond, peu importe, le ou les noms que l'on donne à ces hommes, ces femmes, ces enfants, à bien y regarder de près, de façon simple, ils ne sont que des êtres humains, comme vous et moi. Êtres humains forcés pour X raisons à quitter leur pays, leur vie, leur famille et leurs amis. Autrefois, le migrant croyait à un Eldorado. Aujourd'hui, souvent, cela vaut à peine mieux que la mort dans les bras de leur mère patrie anéantie. L'être humain se nourrit d'espoir et a toujours eu pour ambition de survivre. N'est-ce pas là ce qui pousse ces quelques milliers de personnes à prendre la mer sur une embarcation de fortune, à se cacher dans un train d'atterrissage d'avion ou tout autre moyen désespéré, quand justement, sans moyens, ils sont? Prendre le risque de mourir ou de voir mourir ses enfants, prendre le risque de l'oubli. À l'heure où j'écris ces lignes, je me rappelle les dires de mon arrière-grand-mère, qui me racontait sa jeunesse durant la guerre 14-18, qui me racontait son frère, obligé d'aller au combat, poussé par les gendarmes de chez nous, son frère, tenaillé par la peur, devant et derrière. La situation des migrants, aujourd'hui, me semble similaire. Nous sommes les gendarmes français, européens, qui les repoussent vers leurs ennemis intérieurs. J'ai beau regarder mon visage dans la glace chaque matin et me dire que tout cela n'est pas ma faute, je me sens coupable. Au fond de moi, je sais que je participe au chaud, à la curée, que je laisse cette portion du monde aux chiens de chasse, avec ma façon de vivre et de consommer ici en France, pays des Lumières en voie d'extinction. Qu'on le veuille ou non aujourd'hui, qu'il soit visible ou pas, toutes les frontières ont des murs sur lesquels repoussent les barbelés. Nos doux rêves socialistes des années 1980-1990 n'auront été que mirages et utopies, ayant permis à une certaine gauche de s'asseoir et de pourrir sur le trône. Que reste-t-il aujourd'hui de nos désirs humanistes de cette époque? Il reste des urnes, désertées par la jeunesse. Mais le monde continue à faire semblant de battre sa crème pour faire sa chantilly. Bla, 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 comme l'exprime si bien Greta Thunberg. Des migrants meurent en mer et c'est seulement pour rechercher les morts que l'on affrète bateaux et avions. Nous vivons dans un monde qui vient au secours des morts, parce que la mort se paye encore le luxe de ne pas avoir de nationalité, de frontières. La mort n'est pas raciste, elle rappelle à tout un chacun une idée d'égalité. La mort a la même couleur pour les vivants. À la frontière biélorusse, Loukachenko délivre des visas pour que des centaines de personnes, ou plutôt, devrais-je dire, morts-vivants, se massent aux portes de l'Europe, utilisant ainsi des êtres humains comme armes répressives. Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a-t-il tort de parler de terrorisme d'État et d'accuser Vladimir Poutine d'en être le commanditaire? Certes non, de mon point de vue en tout cas. Mais l'Europe, que fait-elle l'Europe? Quelle position prend-elle face au despotisme dégagé de ces nations? Ne s'est-elle pas engagée elle-même sur le chemin où chaque pays est en passe de devenir une autocratie fermée, où chacun accuse l'autre et le laisse se démerder en y mettant les formes, bien entendu? Ne sommes-nous pas civilisés dans ces régions du monde? Rappelons-nous la Grèce, l'Italie, citons la Pologne dernièrement, encore une fois. Ne fait-on pas le minimum syndical, comme on dit? On envoie un peu d'hommes, un peu de vivres, un peu de fric, sans qu'aucune véritable décision européenne ne soit prise. Alors question, à quoi sert une Europe factice? Eh bien, à nourrir les autocraties européennes qui la composent. Europe et haine, devrait-on la rebaptiser? Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience, disait Léo Ferré. La véritable question de notre temps ne serait-elle pas à combien évalue-t-on une vie humaine selon l'endroit où elle se trouve? Voulez-vous que je vous dise, philosophiquement parlant, la Terre n'a jamais été ronde, car chaque pays habite une autre planète. Pour preuve, oui, pour preuve, nous sommes encore incapables en 2021 de prendre les bonnes décisions ensemble, qu'elles soient d'ordre environnemental, humaine ou politique. Nous courons contre le temps, nous qui n'en possédons qu'un infime mouvement. Nous n'avons fait jusqu'ici que nous reproduire, en ne songeant qu'à nous, des petits morceaux de nous-mêmes traversant les âges, incapables de se projeter vers l'avenir. Je ne parle pas ici de technologie, mais de conscience, d'âme, d'humanité. Que faudra-t-il à l'être humain pour qu'il tende simplement la main à celui qui se noie? Alors méfie-toi, frère humain, car comme le disait le poète Léo Ferré, encore lui, quand les gens se mettent à avoir une comptabilité derrière les yeux, eh bien, ils deviennent des comptables.